ぼかしぼかし。
Suivez à présent Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hiron.
Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous, province de l'Équateur. Lancement hier lundi de la campagne électorale pour l'élection du nouveau gouverneur de cette province. Comment se déroule cette campagne pour les 5 candidats au poste de gouverneur et quelles sont les chances des uns et des autres? Nous recevons 3 invités dans ce débat. Thomas Loaka Losenjola, député national et secrétaire exécutif du MLC, parti de l'opposition, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Sébastien Adambou, sénateur PDC, membre de la majorité au pouvoir, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Professeur Thierry Landou, analyste politique, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Deuxième journée à Mbandaka de la campagne pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de province de l'Équateur. Cette campagne de 3 jours a été lancée hier par le bureau de représentation provinciale de la Commission électorale indépendante. Paul Richard Malingela, vous êtes l'un des correspondants de Radio Okapi sur place à Mbandaka. Comment se déroule cette campagne pour les 5 candidats au poste de gouverneur?
Écoutez Alain, disons que depuis hier lundi, au centre-ville de Mbandaka notamment et autour des états-majors des candidats, c'est la fièvre qui se dégage. Certains candidats arborent des banderoles et des affiches sur des portails et murailles de leur résidence. Celles-ci sont d'ailleurs badigeonnées et embellies pour la circonstance. La plupart des candidats ont distribué des t-shirts frappés à leurs effigies. On voit également circuler des bouquins et autres dépliants à travers la ville. Et des commentaires vont bon train sur les projets de société élaborés par chaque candidat. On voit particulièrement les sympathisants du MLC placarder les affiches de leurs candidats à la permanence du parti ainsi que sur leurs véhicules, motos et bicyclettes.
Paul Richard, quelles sont les stratégies de propagande adoptées par les candidats?
Il faut rappeler Alain qu'ils sont 5 candidats suivant l'ordre alphabétique établi par la CEI. Il s'agit de Bayende Jean-Claude, Bolenge Gabriel, Bongongo Michel, Boussa Jean-Lucien et Mbanda José. Tous ou presque vont à la rencontre de l'électorat car la loi électorale interdit de réunir les députés provinciaux dans l'hémicycle. Hier lundi, Bayende Jean-Claude et Boussa Jean-Lucien avaient réuni chacun un groupe de députés respectivement au jardin botanique d'Eala et à l'hôtel Benghazi pour une conférence. Par contre, nous avons vu Bolenge Gabriel, lui, faire le porte-à-porte pour convaincre ses électeurs. Ce mardi après-midi, Bongongo Michel a organisé une conférence avec les députés, alors que Mbanda José vient de convoquer tous les députés à une conférence débat qu'il tiendra demain mercredi.
Visiblement, Paul Richard, personne parmi ces candidats n'utilise la presse.
Si, Alain, Radio Okapi Mbandaka reçoit depuis lundi dernier 2 candidats par jour pour dévoiler chacun en 3 minutes son programme d'action. Il ne reste plus que José Mbanda, qui passera d'ailleurs ce mercredi. Par contre, la CEI et la AM ont réuni ce mardi matin des directeurs de 5 chaînes de radio locales, dont la RTNC. Ces 2 institutions ont rappelé la conduite à suivre pour l'égalité du temps d'antenne, mais aussi la gratuité d'intervention pour chaque candidat. Par ailleurs, le MLC s'active à faire fonctionner la chaîne de CCTV Mbandaka.
Dernière question, Paul Richard. Comment se présente alors la configuration politique à la veille de cette élection?
D'abord, parmi les candidats, il faut retenir qu'il y a 2 qui appartiennent à des partis politiques. Boussa Jean-Lucien au MLC et Mbanda José au RCD National. Ils seront en face de 3 indépendants, Bayende Jean-Claude, Bolenge Gabriel et Bongongo Michel. Du côté de l'Assemblée provinciale, elle compte 108 députés. Mais selon le rapporteur, ils sont répartis en 4 groupements politiques, à savoir le MLC et alliés, qui sont majoritaires, le PPRD et alliés, le PDC et alliés, ainsi que la CDR, Convention pour la démocratie et la République. Mais depuis la motion de défiance contre José Makila en janvier dernier, certains observateurs constatent que ces alliances sont devenues fragiles. Les députés changent fréquemment de camp pour les intérêts égoïstes. Signalons enfin, Alain, que la campagne électorale s'achève demain mercredi, mais l'élection proprement dite aura lieu vendredi prochain.
Merci au Paul Richard Malingela. Je rappelle que vous êtes l'un des correspondants de Radio Okapi à Mbandaka. Merci encore une fois, honorable Thomas Louaka. Un commentaire par rapport au déroulement de la campagne à Mbandaka.
Non, je pense que jusque-là, en tout cas, merci pour l'invitation au Radio Okapi. Je pense que jusque-là, les choses se déroulent normalement. Il n'y a pas de gros incidents à déplorer. J'espère que ça va continuer dans cet état d'esprit-là.
Pour entrer directement dans la danse, avant de donner la parole au professeur Thierry Landou, mais le MLC y va en ordre dispersé. Apparemment, vous n'avez pas tiré les leçons des élections de gouverneur à Kinshasa, au Bas-Congo.
Non, je crois que la situation est différente. Au Bas-Congo, les MLC avaient présenté un seul candidat, c'était M. Foukaounzola. Il n'y avait pas d'autres candidats MLC en indépendant ou autres. Même à Kinshasa, les MLC avaient présenté Adam Bombolé et nos partis favoris.
Comme à l'Équateur, d'ailleurs.
Mais ce qui se passe à l'Équateur est différent justement de l'autre côté parce que le parti aligne son candidat qui s'appelle Jean-Lucien Boussa, mais parallèlement à cette candidature officielle, il y a des anciens cadres du parti. Je dis cela au passé parce que comme vous le savez, la semaine dernière, le parti a levé l'option de pouvoir se séparer de ces cadres-là, c'est-à-dire M. Gabriel Bolingué et Bongongo. Donc, les partis, le MLC, aligne un seul candidat qui s'appelle Jean-Lucien Boussa et les partis lui apportent tout son soutien. Maintenant, est-ce que la candidature de ces anciens cadres du MLC va-t-il causer un préjudice aux candidats du MLC? Nous ne le souhaitons pas, mais nous savons que c'est de la politique. Leur seule présence peut perturber les jeux, mais nous restons confiants.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont écrit à ce sujet, notamment Norbert de Kalemie au Katanga qui dit « Je souhaite une bonne chance au MLC pour gagner cette élection à la tête de l'exécutif provincial de l'Équateur. Je me demande seulement comment le MLC contrôlera-t-il l'exécutif de cette province avec les divisions en son sein. » Malunga Kubali de Bandunduville, l'Équateur est le chef du MLC. Pourquoi il n'y a pas un même langage dans cette famille qui présente plusieurs candidatures au lieu d'un seulement pour sauvegarder leur poste de gouverneur de cette province? Docteur Bongo de Guémena à l'Équateur, la multiplicité des candidats MLC prouve combien ces derniers cherchent leurs intérêts personnels. Brève réaction de Thomas Louaka et on donne la parole au professeur Thierry.
Non, je pense que ça a été dit, vous savez, un parti politique c'est une association d'individus librement, comme le disait notre président national, Jean-Pierre Bemba. Les MLC est une église, c'est comme une église. Vous y entrez librement, vous partez librement. Mais lorsqu'on est dans la structure du parti, vous avez des droits et des obligations. Entre autres, c'est soumettre aux décisions du parti. Le parti a pris une décision, il y a des cadres du parti qui n'ont pas voulu respecter cette décision et le parti a tiré toutes les conséquences. Donc il ne faut pas dire que le MLC va en ordre dispersé. Le MLC a un seul candidat à l'Équateur, au gouvernement de l'Équateur.
Professeur Thierry Landou, un commentaire aussi par rapport au déroulement de la campagne telle que nous l'a décrite notre correspondant Paul Richard Malingela.
Je me rends compte que bon, ça se déroule normalement, il n'y a pas d'incident, c'est déjà une bonne chose, d'autant plus que on a quelques frictions peut-être au niveau des candidats qui se sont séparés de leur propre parti. Mais j'ai l'impression que ça s'annonce serré pour le MLC, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est la seule province que le MLC avait gagnée. Et je crois qu'il y a des enjeux importants aujourd'hui par rapport, entre autres, à la structure du parti, par rapport à ce qui va se passer peut-être après ces élections, si le MLC venait à perdre la province de l'Équateur. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais enfin, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a des fissures qui ont commencé, et ça c'est un peu dangereux, quand bien même on essaie de se remettre ensemble, de se ressouder, ce qui est normal dans un parti politique. Donc par rapport à ces élections, moi je pense que l'enjeu ça ressemble à mon avis. Imaginez qu'on ait eu des élections primaires après 3 années d'exercice de pouvoir ou même dans l'opposition, ces élections primaires auraient pu donner un coup de semonce ou une indication entre autres au MLC par rapport à ce qui va devenir demain.
Professeur Thierry Landou, il y a Léonard Kyungu de Kalemi au Katanga qui dit « Pourquoi les élections dans notre pays sont souvent source de division, parfois de séparation, que l'Assemblée provinciale de l'Équateur choisisse l'intérêt général et non les cadeaux empoisonnés offerts pour des intérêts égoïstes ?»
Ben, c'est le souhait de tout le monde, mais il faut avouer une chose, c'est que les élections qui se déroulent au sein des assemblées provinciales sont des élections qui sont plutôt égoïstes. Ça tourne autour de l'argent. C'est à celui qui graisse les pattes des uns et des autres. On l'a vu dans plusieurs provinces. On le voit même maintenant. Parce que le problème, c'est pas seulement de gagner les élections. Le problème, c'est de gouverner demain et d'être de rester au pouvoir avec une majorité qui est vacillante. Tout à l'heure, on a dit, hier, on avait la grande majorité du MLC à l'Équateur, mais aujourd'hui, au moment où on vote pour une motion contre Makila, on ne sait plus qui est où et qui fait quoi. Donc c'est dans cet environnement-là qu'on va gouverner l'Équateur, et cet environnement favorise une seule chose, c'est cette gestion qui est faite par chantage. Quoi. C'est-à-dire que les députés vont faire du chantage auprès du gouverneur, et on voit ça, par exemple, vous voulez faire passer un budget, ben, ils montent les enchères. Et là, quand ils montent les enchères, c'est pas une question de députés d'appartenance de gauche ou de droite. Tout le monde a envie de se servir, et si le gouverneur ne sait pas servir tout le monde, eh ben son budget ne passe pas, ou bien il a une motion, des trucs. Donc, moi, ma crainte, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir dans beaucoup d'assemblées, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que ce jeu de chantage qui va dans le sens des intérêts et des poches des individus, eh ben, ce jeu-là occulte carrément tout ce qui est intérêt général, tout ce qui est vision pour la nation, etc.
Voilà, avant de donner la parole à l'honorable Thomas Louaka, la réalisation me signale que nous avons beaucoup de mal à joindre le sénateur Sébastien Adambou, membre de la majorité au pouvoir, qui pourtant a donné son accord de principe pour participer à cette émission. S'il nous suit, que le sénateur nous permette de le joindre pour participer à ce débat. Honorable Thomas Louaka, quels sont les enjeux de cette élection à l'Équateur?
Je pense qu'il y a les professeurs, je partage tout à fait l'analyse du professeur Thierry Landau, je profite de l'occasion pour les saluer. Il ne suffit pas de gagner, il faut pouvoir gouverner. Les enjeux, je crois qu'il y a deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, est-ce que les gouverneurs, les prochains gouverneurs, aura-t-ils à sa disposition une base solide au sein de l'Assemblée provinciale pour pouvoir travailler pour la province, pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Je tiens ici à rappeler que contrairement à une idée reçue que certains membres de l'AFDEL qualifiaient la province de l'Équateur, ou en tout cas les ressortissants de l'Équateur, sous le titre des codes de 32, c'est-à-dire qu'ils ont géré pendant 32 ans, l'Équateur est l'une des provinces qui a le moins profité. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, pour ne pas dire l'une des pays, des provinces les moins avancées. Donc il faut aujourd'hui qu'ils aient vraiment un gouverneur qui puisse défendre et les intérêts de la province. Les enjeux, comme je le disais, c'est, est-ce qu'il faut faire le choix, et je demande aux députés professeurs de faire le choix, est-ce que vous allez chercher un gouverneur pour pouvoir aider la province à aller de l'avant, ou bien vous allez mettre en place élire un gouverneur qui sera à votre disposition. Parce que ne disposant pas d'une base dans l'Assemblée provinciale, il sera otage des députés provinciaux. Parce que il n'ayant pas ces groupes sur lesquels il peut s'appuyer, il est à la merci, c'est ce que le professeur Thierry Landau parlait, des chantages permanents. Et à ce moment-là, ce n'est pas la province qui va bénéficier. Il est vrai que certains députés provinciaux peuvent se retrouver dans ces chantages, puisqu'à tout moment, ils vont menacer les gouverneurs en disant « Nous allons faire une motion si tu ne nous donnes pas de l'argent, nous allons faire une motion si tu ne peux pas passer tel avantage. » Donc, je pense qu'il est de l'intérêt de la province de pouvoir promouvoir un gouverneur qui pourra aider réellement la province à aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, les problèmes de la province, nous les savons, la paupérisation qui est un peu générale, mais qui frappe énormément l'Équateur, les voies d'accès, comme vous le savez, l'Équateur n'a pas beaucoup de voies de communication, beaucoup de routes, parce qu'il y a beaucoup de rivières, et c'est dans la forêt équatoriale à l'exception du Nord, du Grand Nord là-bas. Donc, il faut quand même quelqu'un qui puisse maîtriser ces enjeux pour pouvoir travailler au profit de la population. Sinon, nous allons assister à un phénomène que le professeur Thierry Landou a dénoncé tout à l'heure, où vous avez un gouverneur de province pris en otage par certains députés de l'Assemblée provinciale, et là, c'est la province qui y perd.
Qu'est-ce que vous répondez à Hassani de Kisangani en province orientale qui dit « Je doute fort de l'issue de ces élections, car nos députés provinciaux sont très corruptibles ». Le professeur Thierry Landou a dit que souvent les
je ne peux pas me permettre de dire que les députés professeurs de l'Équateur sont corrompus parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai jamais assisté à des actes de corruption. Mais en tout cas, ce que je sais, le MLC a gagné les élections avec José Makila sur 108 députés. Je crois que nous avons fait un résultat de 66. Sur le papier, le MLC part favori, d'autant plus que l'AMP, aujourd'hui, la famille politique, les groupes politiques au pouvoir, n'a pas aligné des candidats, ça c'est officiel, ils n'ont pas aligné des candidats là-bas. Donc, sur le papier, les MLC part favori, à moins que justement ces pratiques que nous dénonçons tous de la distribution de l'argent viennent perturber ces jeux démocratiques, c'est-à-dire avilir les jeux politiques.
Professeur Landou, partagez-vous les mêmes enjeux, hein, la même perception sur les enjeux que Thomas Louaka?
Moi, je voudrais ajouter un enjeu que je pense qu'on ne perçoit pas et qui peut-être risque d'être mal interprété, mais je veux quand même essayer d'oser de le mettre sur la table. C'est que, tout à l'heure, Thomas, à propos, je te salue aussi parce qu'on nous a plongé dans le débat, là, on ne savait même pas se dire bonjour, bonsoir. Thomas a parlé de cette province qu'on dit avoir gérée pendant 32 ans. C'est vrai, effectivement, pendant 32 ans, il n'y a pas eu grand-chose à l'Équateur. Mais maintenant, l'enjeu actuel, c'est quoi? C'est de dire aux habitants de l'Équateur que maintenant que la majorité est du MLC, une majorité qui est propre à la province, et voici déjà 3 ans qu'ils ont été incapables de diriger, ils sont allés dans des querelles byzantines. En fait, le but que l'on va poursuivre, si demain, au moment des élections, on choisit une personne qui n'arrive pas à gouverner, on va aller au-delà de dire tout simplement qu'ils ont gouverné pendant 32 ans. On va dire qu'ils sont incapables de gouverner. Et par conséquent, ils sont incapables de revenir au niveau de la nation pour pouvoir gouverner la nation. Et ça, c'est quelque chose de très astucieux qui est vraiment en dessous de je pense, là, j'imagine peut-être pas comment les gens vont réagir, mais je me dis, si je creuse, on peut arriver à ça. Et je le dis tout simplement parce que au moment où on avait eu l'élection de Makila, et que le MLC avait gagné la province de l'Équateur, moi j'avais pensé, et je pense encore jusqu'à aujourd'hui, que le MLC avait et a encore une chance, en fait, de gouverner une seule province de ce pays, et de le gouverner différemment, grâce au processus de décentralisation. Et d'arriver au terme de la gestion de la province de l'Équateur, à dire à la nation entière, regardez ce que nous, MLC, avec notre vision, notre politique, nous avons fait de la province de l'Équateur, qui est partie de 0 et qui est arrivée à 5. Moi, j'ai toujours rêvé que le MLC, en prenant justement la province de l'Équateur, puisse aller dans cette direction-là. On a perdu 3 années, et j'ai bien l'impression que dans les 2 années qui vont suivre, si le choix est mauvais, eh ben, on va mettre ça sur le dos du MLC pour dire qu'ils sont incapables de gouverner. Vous les avez vus à l'Équateur, regardez ce qu'ils ont fait de l'Équateur. Et ça, c'est un danger que je crois que les MLC doivent percevoir, et que les amis de l'Équateur en général doivent percevoir aussi. Je ne dis pas que, bon, il n'y a que le MLC comme parti à l'Équateur, mais je crois que c'est le parti majoritaire et qui regroupe le plus grand nombre de fils et de filles de cette province. Donc, je crois que là, il y a quelque chose à creuser et il y a quelque chose qui devrait remotiver les uns et les autres à partir de ces élections pour voir demain qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en tant que parti majoritaire dans cette partie-là au niveau de la nation. Alors, par rapport aux alliances, vous savez, bon, ça se fait, ça se défait. C'est vrai, il a dit qu'ils ont une majorité sur le papier, mais faux, ça veut rien dire, ces majorités sur le papier. Vous savez comment ça se passe dans ces élections de gouverneurs, il suffit que les uns les autres mettent de l'argent, mais ça va passer quelque part. Le problème, c'est quoi? C'est que...
Je vous en prie, terminez votre idée.
Terminé. Oui, je dis par exemple, on dit que l'ANP n'a pas présenté un candidat officiellement. Bon, ils n'ont jamais présenté, mais quand vous allez au Kassai, je crois qu'à un moment donné, ils n'avaient pas présenté un candidat, ils présentent des indépendants. Ce sont des indépendants qui, en fait, ne sont pas des indépendants. Une fois élus, ils passent dans le camp de l'ANP et là, ils ont des bouquets, quoi.
Donc, professeur, il y a... Comment vous répondez à Claver Kass de Goma au Nord, qui vous, qui dit « Je vois la présence de la main noire de la majorité dans ces élections. » Louis Nyango de Bukavu, Sud Kivu, dit « Ces élections à l'Équateur sont une mascarade où le pouvoir cherche à instrumentaliser le Parlement provincial pour déstabiliser l'opposition. »
Bon, c'est, de toute façon, on a vu ça tout au long de cette session. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir, l'ANP considère que les élections, c'est l'occasion de se retrouver au pouvoir. Une fois au pouvoir, ben on y reste. Et quand on y reste, bon, les Congolais ont une conception de manière générale, je dis de manière générale, pas tout le monde sans doute, mais de manière générale, ils ont une conception du pouvoir qui est faite de ruses, de manœuvres, de choses pas très claires, il n'y a pas de transparence, parce que tout ce qu'on cherche, c'est tout simplement être au pouvoir. Tout le reste de la vision alternative, les politiciens congolais dans leur majorité ne font pas preuve de cet état d'esprit. Donc, que la majorité manipule les élections, ben écoutez, je ne serais pas surpris. Qu'ils le fassent pas, bon, ce serait bien, mais l'enjeu n'est pas à ce niveau-là. L'enjeu, c'est au niveau de l'UNLC et sa capacité à se ressouder, à se remettre ensemble. Vous savez, je vous donne un exemple, c'est que vous allez à l'Assemblée nationale à un moment donné, je crois que Thomas était dans la salle, on fait lors de la présentation du budget du Premier ministre, ben écoutez, on fait élection et visiblement la majorité a basculé. On a vu ça. Et puis après, on a rappelé les troupes à l'ordre, et tout le monde est rentré à l'ordre. Donc, vous voyez, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre.
Thomas Louaka, décidément, le MLC, incapable de s'organiser, semble mettre la déstabilisation sur le dos de la majorité au pouvoir. Non, on n'a pas dit ça. C'est vrai qu'on a connu des problèmes au niveau du parti politique, seulement au niveau de la province de l'Équateur. Mais il est vrai qu'il y a des forces qui travaillent à pouvoir laminer les MLC, surtout les anciennes forces, les partis anciennement belligérants. On a vraiment l'impression qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir nous laminer. Ça a commencé avec l'attaque contre José Makila. Aujourd'hui, officiellement, comme je le disais, l'ANP n'a pas présenté de candidature, mais nous avons bizarrement dans nos rangs des gens qui sortent des rangs et qui ne veulent pas se soumettre à la discipline du parti, qui vont en indépendant. Est-ce qu'ils sont pilotés par l'ANP? Je n'ai pas d'éléments de preuve là-dessus, mais ça ne me surprendrait pas. Mais officiellement, l'ANP dit qu'il ne soutient tout à fait personne. Les MLC, peut-être aujourd'hui, les gens sont en train de vivre qu'il y a des turbulences au niveau du MLC. Mais c'est justement la conséquence d'un parti politique. C'est un corps vivant. Lorsque vous avez un corps vivant, comme un parti politique, où il y a les débats en interne, c'est tout à fait normal que les contradictions puissent apparaître. Dans un parti politique, lorsqu'il n'y a pas de débat, lorsqu'il n'y a pas un débat démocratique, il n'y a pas de contradictions. Alors, à ce moment-là, c'est un parti stalinien. Le MLC...
Jusqu'à l'exclusion de certains cadres. Hein.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu débat, on a parlé. Vous savez, les gens ont déposé leur candidature quand ça a pris du temps. Ça a pris du temps au MLC pour pouvoir réagir. Parce qu'on a parlé, on a dit qu'il y a manifestement des agendas cachés. Les turbulences du MLC aujourd'hui. Nous sommes en train de voir comment les gérer en interne. Malheureusement, c'est apparu à la surface à ces moments-ci parce qu'il y a les élections. Et aujourd'hui, vous savez, la conception, une autre conception un peu de la classe politique congolaise, les élections, c'est un moyen d'accès aux ressources du trésor public. Et ce n'est pas un moyen d'obtenir un mandat, une charge pour résoudre les problèmes de la population. Voilà pourquoi la lutte politique parfois au Congo est très très âpre. Donc nous essayons, pour répondre concrètement à votre question, nous ne sommes pas incapables de régler ces problèmes, nos contradictions internes. Mais nous cherchons un juste milieu
entre la liberté d'expression de nos cadres militants et sympathisants et la discipline nécessaire à toute organisation politique. Voilà comment nous cherchons cet équilibre.
Il y a Blanchard Lobaï de Mbandaka à l'Équateur qui dit « Il fallait que les candidats au poste de gouverneur aillent coller leurs affiches publicitaires devant les domiciles de leurs électeurs, car ce n'est pas la population qui ira aux urnes. D'ailleurs, cette population n'a jamais été consultée. » Apparemment, on sent une cassure entre la base, la population et les dirigeants, les leaders à l'Équateur.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça un peu le paradoxe de la démocratie. C'est comment permettre à la population de s'exprimer. Aujourd'hui, si vous faites des sondages en Mbandaka, le MLC l'emporte, si c'était la population de Mbandaka ou de l'Équateur. Si c'est la population qui votait, le MLC, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, comme c'est les représentants de cette population-là, il y a cette cassure. Maintenant, est-ce que les députés provinciaux vont-ils prendre en considération les points de vue, parce que la population parle, que ce soit à Guadeloupe, en Mbandaka, à Bikoro ou ailleurs, la population a un choix majoritaire qui est très clair. Mais est-ce que les délégués ou les représentants des populations, que sont les députés provinciaux, vont-ils respecter la volonté de la population de l'Équateur ou vont-ils trahir la confiance qui a été mise en eux? Voilà la question.
Professeur Thierry Landou, visiblement, on sent beaucoup d'inquiétude de la part des populations qui semblent ne pas se retrouver dans les différents candidats, apparemment.
Ça, c'est pas seulement à l'Équateur. Je crois que le mode d'élection des gouverneurs, en fait, c'est un mode d'élection qui a été décrié immédiatement après. On a vu ça à travers toutes les provinces, que, en fait, s'il avait été question de poser la question à la population, si c'était la population qui devait élire, il y a beaucoup de personnes qui seraient pas gouverneurs au niveau de certaines provinces. Donc là, il n'y a pas d'équivoque à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est criant, en fait, à l'Équateur. Regardez, même José Makila, quand bien même, j'ai pas compris clairement ce qui s'est passé avec tout ce qui a eu à l'Équateur. Mais si vous allez aujourd'hui à l'Équateur, sa cote n'est pas au plus bas. C'est que ça ne dépendait que de la population. Rien que par exemple de la ville de Mbandaka, on vous dira que c'est l'homme qui voulait encore en regarder. Donc là, il y a vraiment une cassure et peut-être que bon, dans les années à venir, on va essayer de revisiter un peu ce mode d'élection des gouverneurs parce que visiblement, ceux à qui on donne un mandat pour élire, une fois dans l'hémicycle, ils font autre chose que la volonté de la population. Mais là aussi, il y a quelque chose qu'il faut arriver à créer. Quoi. C'est que la population, elle est attentiste. Elle ne doit pas être attentiste. Elle connaît ses députés. La population peut faire pression sur ses députés. Lors des choix aussi importants comme ceux-ci, les populations peuvent aller, par exemple, camper devant les maisons de ces députés. Ils ne sont pas nombreux. La population, elle est nombreuse. Vous pouvez aller, vous camper, vous attendez que le résultat soit exactement celui que vous voulez. Ce type de pression-là n'existe pas. Et les gens, ils ont tendance à rester chez eux en disant, oh, c'est chité, ces histoires-là, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais en même temps, ils disent que nous, on veut ceci et ils n'expriment pas ce qu'ils veulent de manière convaincante en s'appuyant sur les expressions de type démocratique par rapport à cette volonté.
Merci, professeur. La réalisation me signale toujours que le sénateur membre de la majorité au pouvoir, Sébastien Adambou, reste injoignable. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit, il a donné son accord de principe pour participer à cette émission. Nous allons prendre cet élément de Henri Thomas Lokondo, sénateur membre de la majorité au pouvoir, qui s'exprime, lui, sur le profil du futur gouverneur de l'Équateur.
Le profil non seulement d'un gouverneur qui doit gérer l'Équateur, mais de tout cadre qui doit gérer là où il peut être comme animateur d'une structure de l'État. D'abord un type compétent, d'abord la compétence, et expérimenté, un rassembleur, un type qui a la mémoire institutionnelle non seulement de la province, mais également du Congo.
Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Est-ce que votre plateforme a aligné un candidat ou bien soutient un candidat parmi les cinq qui
comptent? J'ai entendu ça, madame. Vous savez, il y a des gens qui font du trafic d'influence. Hein. La MP n'est pas partie prenante, n'a pas aligné un candidat. Si quelqu'un veut appuyer individuellement un candidat quelconque, mais il le fait à titre personnel, mais pas à titre, au titre de la plateforme, moins encore au titre, au nom du chef de l'État, comme j'entends les gens le dire.
Honorable Thomas Louaka, le profil du futur candidat gouverneur, hein, du prochain gouverneur, d'après Henri Thomas Lokondo, il doit être compétent, expérimenté, rassembleur, avoir une mémoire institutionnelle du Congo. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, je suis d'accord, mais il y a un élément que je voulais ajouter. Je pense que être gouverneur, c'est avant tout être politique. Le prochain gouverneur de l'Équateur doit être un homme politique, c'est-à-dire quoi? Capable de résoudre les contradictions. Il y a toujours des contradictions dans une province, dans une assemblée provinciale, et le travail d'un politicien, en tout cas d'un homme politique, c'est d'avoir la capacité à pouvoir résoudre ces difficultés. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose qu'on acquiert avec une longue pratique de la politique. La compétence, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, la Constitution, notre Constitution, a accordé beaucoup d'attributions, beaucoup de compétences, tant partagées que propres à chaque province dans le cadre de la décentralisation avancée. Il faut quand même quelqu'un qui puisse pouvoir maîtriser ces matières-là et pouvoir exercer ces attributions. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gouverneur qui est là, qui ne sait pas par où commencer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de problèmes à l'Équateur. Et troisièmement, la moralité, ça c'est très très important pour moi. La moralité, parce qu'on a vu pendant la Deuxième République que la compétence ne suffisait pas. Vous pouvez être professeur d'université, on vous met à un poste ministériel, vous êtes très compétent, mais lorsque vous n'avez pas l'essence de l'intérêt public, eh bien, la République va sombrer. Donc là aussi, je pense que c'est important pour la province d'avoir, je récapitule, quelqu'un qui est très politique, pouvoir rassembler. Vous connaissez les courants, les forces centrifuges, c'est les forces qui éloignent, c'est ça?
Ouais.
Oui, les forces centrifuges qui s'exercent au niveau de l'Équateur, entre le nord et le sud, entre les futures provinces qui vont arriver, entre ceci, ces groupes et cela. Donc, il faut avoir vraiment quelqu'un qui puisse résoudre ces contradictions et rassembler tout le monde. Donc, politique, deuxièmement, la compétence, et troisièmement, une très grande moralité.
Professeur Thierry Landau, vous venez de suivre les différentes propositions sur le profil du futur gouverneur de la province de l'Équateur, mais l'ethnie, l'appartenance à une tribu donnée, ne vont-elles pas jouer?
Écoutez, ça peut jouer, parce que j'ai cru comprendre qu'entre le problème de Makila, le nord et le sud se sont affrontés, même discrètement, mais en fait, apparemment, c'était cela. Non, mais moi, je dis, l'enjeu, c'est pas l'ethnie. Vous savez, les gens parlent beaucoup de nos ethnies comme si c'était quelque chose de très, très négatif. Non. Moi, je n'ai pas choisi de naître dans mon ethnie, Thomas non plus, n'importe qui non plus. Ces ethnies sont des réalités sociales, des réalités culturelles, des réalités politiques et même des réalités de développement dans certains points. Donc, il ne faut pas non plus mettre seulement l'aspect négatif sur cet élément-là. C'est lorsqu'on y ajoute un isme, d'ailleurs, ça devient mauvais. Bon, mais enfin, c'est pas à ce niveau-là que je voudrais me situer. Mais je dis ceci, c'est que les qualités qu'on a données, ce sont les qualités que nous retrouvons, ce sont les éléments que nous voulons voir chez les Congolais. Et nous pensons, moi personnellement, je pense qu'il y a des Congolais qui ont ces qualités-là. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à les faire émerger, à leur confier des responsabilités et à les soutenir, à nous mettre autour d'eux pour que ces Congolais puissent faire du travail et un travail convenable. J'insiste encore une fois, vous savez, nous parlons souvent de l'Équateur en disant c'est pauvre, tout à l'heure on l'a dit, ils n'ont rien bénéficié et tout ça. Mais l'enjeu par exemple de ces élections, au-delà de tout le reste, c'est que si demain l'Équateur a un gouverneur pantin, les gens n'imaginent pas ce qu'il y a comme richesse à l'Équateur qu'on peut bazarder parce que vous avez un gouverneur qui en fait ne gère pas bien la province. On parle de l'eau. C'est une fortune pour l'Équateur. On parle du pétrole. L'Équateur nage dans le bassin pétrolier de ce pays. On parle de la forêt. On parle de la faune, la flore, le tourisme. On n'a pas encore fini avec les minéraux. On parle de la terre de l'Équateur. On parle du fleuve avec ce qu'il y a comme poisson et tout. Donc, je crois que là, les gens n'imaginent pas ce qui va se passer demain si tout d'un coup, on a un gouverneur qui commence à conclure des contrats léonins dans cette partie du pays, bazarant tout, alors que c'est l'une des provinces les plus riches de ce pays.
Province de l'Équateur, lancement hier lundi de la campagne électorale pour l'élection du nouveau gouverneur de cette province. C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Comment se déroule cette campagne pour les 5 candidats au poste de gouverneur? Quelles sont les chances des uns et des autres? 3 invités participent à ce débat, 2 malheureusement. Thomas Luakalo Sejola, député national et secrétaire exécutif du MLC, parti de l'opposition. Professeur Thierry Landou, analyste politique. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Sébastien Adambou, sénateur PDC, membre de la majorité au pouvoir, qui pourtant nous avait donné son accord de principe. Si vous souhaitez réagir, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Thomas Luaka, dans la configuration actuelle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, telle que nous l'avons vue avec notre collègue Paul-Richard Malingela, quelles sont les chances des uns des autres candidats, notamment votre candidat?
Mais la chance, je disais, les MSC, c'est les premiers groupes parlementaires. C'est les premiers partis politiques de la province de l'Équateur. Sur 108 députés, les MLC peuvent en revendiquer. On était 37, je crois que maintenant on est à 35. 35 députés. Donc c'est très très important. Je pense
mais avec les différents revirements, vous n'êtes à l'abri de rien.
Non. Là, je parle des chances que nous avons sur le papier. Donc 35, c'est les premiers groupes, les groupes les plus importants. Avec nos alliés, théoriquement, il ne doit pas y avoir de surprise. Mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, si on injecte dans les yeux démocratiques la pratique de la corruption, c'est ça qui va tout gâcher. Mais je voulais donner un élément avant de continuer sur ce qu'on a parlé de l'ethnie de la tribu. Vous savez, je veux vraiment attirer l'attention de nos frères de l'Équateur. Lorsque vous allez voir votre médecin, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade, vous n'allez pas poser la question au médecin, quelle est votre tribu. Lumumba disait, lorsque vous êtes dans un trou, quelqu'un qui vous tend la main pour vous sortir de ce trou, vous ne lui demandez pas sa tribu, vous ne lui demandez pas quelle est sa religion. Donc aujourd'hui, la province de l'Équateur est malade. Ils ont besoin d'un fils de l'Équateur, parce que tous les saints qui sont là sont ressortissants de l'Équateur. Un fils de l'Équateur qui peut sauver, en tout cas aider à sauver la province. Alors mettez les critères d'appartenance tribale, ethnique ou nord-sud à côté, regardez l'intérêt de la province dans son ensemble. Donc voilà l'élément que je voulais ajouter.
Professeur Thierry Landou, quelles sont les chances les uns des autres pour vous?
Bon, tout le monde a ses chances. S'ils se sont lancés dans ces élections, c'est qu'ils ont bien calculé leurs chances. Mais vous savez, souvent dans ce genre de choses, on procède de manière plus ou moins mathématique. Chacun calcule avec assurance le nombre de voix qu'il peut engranger. Mais je crois que l'enjeu se jouera plus au niveau des alliés, quoi. Si le MLC peut aller au-delà de ses alliés habituels pour grappiller quelques voix au niveau du camp adverse, je crois que là, le candidat du MLC pourra l'emporter. Ça, c'est un. De deux, si les acteurs du MLC et leurs alliés restent fidèles, je crois que le candidat du MLC pourra l'emporter, d'autant plus que de l'autre côté, on a deux ou trois indépendants, je ne sais plus très bien. Alors, si les... Oui?
Les trois indépendants.
Bon, on a trois indépendants, et si les voix doivent se reporter sur les trois indépendants, là, il y a réellement éparpillement. Donc, je me dis, logiquement, si le MSC peut faire vraiment appel à toutes ses troupes et que les gens lui restent fidèles, le candidat du MSC va passer. Mais bon, écoutez, comme disent ceux du MSC, croisons les doigts et puis après on verra.
Il y a Mouamouk de Bukavu au Sud Kivu qui dit « Lors des élections du gouverneur au Sud Kivu, j'ai assisté à une corruption à grande échelle et aux intimidations des candidats. Nos élus furent harcelés et intimidés au vu et au su de tout le monde. Nous demandons cette fois aux électeurs de l'Équateur de jouer sur leur qualité morale pour sortir cette province du gouffre et des pièges. »
Bon, Oui, mais ça, c'est un vœu. Moi, je crois que souvent, c'est un vœu pieux. Ceux qui veulent corrompre, ceux qui veulent faire pression, ils vont le faire. De deux côtés, d'ailleurs. Le MLC peut faire pression, s'il en a envie, sur certains de ses candidats, sur certains de ses électeurs, comme l'ANP ou je ne sais qui. Même si l'ANP dit ne pas avoir présenté un candidat, mais on a en filigrane une belle phrase qui dit si quelqu'un veut soutenir quelqu'un à titre individuel, ben, si plusieurs individuels soutiennent une même personne, si ces individuels viennent de la même plateforme, vous voyez bien que même si officiellement on ne soutient personne, ben, on est déjà en train de les soutenir. Non, moi je me dis, je le répète encore, c'est que c'est au niveau des militants du MLC. Je crois que les militants du MLC, comme les militants des autres partis, au moment où on a des élections aussi importantes, c'est le moment d'interpeller ceux à qui on a confié une charge. On ne doit pas les laisser tourner en rond alors que les autres les prennent en charge. Nous qui les avons élus pour une tâche bien précise, nous les laissons nous rouler. Alors nous, nous formons la majorité. C'est maintenant qu'ils doivent faire pression sur ces députés pour leur dire « voici le... nous, nous voulons que vous puissiez voter. » Et s'il y a eu des clairs au niveau de la majorité des personnes, au niveau des électeurs, eh bien, que ces personnes-là fassent pression, non seulement sur les individus qui sont enfin, les députés provinciaux, mais on fait faire pression au niveau de la famille. Ce sont des actions non violentes. Ça n'a rien à voir avec de la violence, non, de l'intimidation, non, rien du tout. Mais une pétition, une note le matin, un encouragement pour dire, écoutez, voici le candidat que nous, nous voulons pour que nous ayons tous la chance de pouvoir être bien gouvernés et de changer et de transformer la province de l'Équateur. Je crois qu'il faut que, même au niveau des partis politiques, que les partis politiques en cours de l'opposition n'oublient pas qu'ils ont des militants, qu'ils n'oublient pas qu'il y a un jeu qui se joue en dehors de l'hémicycle. Au niveau des hémicycles, ils vont aux élections, ils savent que ce sont des élections déjà perdues.
Merci,
ça devient plus ou moins symbolique, mais ils ne jouent pas suffisamment sur tout ce qu'il y a à l'extérieur qui peut leur apporter de l'appui.
Honorable Thomas Louaka, il y a Cyril de Kinshasa qui dit « Le MLC doit se retirer maintenant car il n'a plus la majorité, il fera sa honte. » Pascal de Bukavu, Sud Kivu, le MLC n'a pas le droit de perdre cette élection, sinon il y a risque de dire qu'il ne peut plus gagner les élections locales.
Non, le conseil de notre ami Cyril qui nous demande de nous retirer parce qu'on n'a plus la majorité, justement, on va aux élections pour pouvoir vérifier si notre majorité existe toujours. On ne peut pas le savoir si on ne va pas, on ne maintient pas la candidature de Jean-Lucien Boussa. Donc on ne peut pas retirer. C'est le jeu démocratique. Et notre ami nous interpelle, le deuxième intervenant, sur l'importance. Nous avons conscience que c'est un enjeu majeur pour les MLC, pas seulement les MLC Équateur, mais les MLC dans son ensemble, ce qui est en train de se passer à l'Équateur. C'est pour ça que nous demandons à tous nos militants, nos sympathisants et tous les autres cadres du parti qui peuvent avoir une influence positive sur l'issue de ces élections à l'Équateur, de pouvoir vraiment s'impliquer de près ou de loin pour que cela puisse aboutir à notre faveur. Nous avons conscience que c'est vraiment un enjeu majeur, ce qui est en train de se passer là-bas pour l'avenir du MLC.
Mais parmi les cadres, il y a José Makila, notamment, hein, qui n'est pas un cadre de moindre dans le MLC, qui a sa position à lui. Il y a Sambo Kolombe également. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des contradictions internes que nous essayons de gérer. Et malheureusement, j'avais prévu moi-même d'aller demain à Mbandaka, mais malheureusement, on n'a pas pu trouver une place dans les avions. Mais dit toutes les places sont occupées. On aurait été sur place justement pour pouvoir essayer de résoudre ces contradictions qui restent encore dans les chefs de haut cadre, de certains hauts cadres du parti, pour que le parti, si les MLC gagnent, nous tous, nous gagnons. Si les MLC perdent, nous allons tous y perdre. Ne pensez pas que les MLC vont perdre. Moi, au cadre du parti, je peux me retrouver. Ça, c'est une illusion.
Votre conclusion, en même temps, on aura justement Jacques.
La conclusion, c'est que je souhaite deux choses. La première chose, qui est la campagne continue à se dérouler dans des conditions normales, qu'il n'y ait pas d'incident à déplorer, qu'il y ait de la tolérance au niveau de cette campagne de la ville d'Mbandaka. Et deuxième chose, je soutiens totalement, complètement notre candidat. J'espère que le vendredi, Jean-Lucien Boussa va gagner ses élections.
Professeur Thierry Landou, votre conclusion également.
Bonne chance à tous ceux qui sont candidats à l'Équateur. Et bon, moi je me dis que si demain,
les élections se déroulent dans le calme comme on a vu la campagne, ce sera déjà une grande victoire pour cette province et que la personne qui sera élue puisse réellement gouverner l'Équateur pour le bien de l'Équateur et pour le bien de la nation.
Merci professeur Thierry Mandou, vous êtes analyste politique. Thomas Louaka, député national MLC, père exécutif de ce parti. Sébastien Adambou, malheureusement que nous n'avons pas pu avoir sénateur PDC, membre de la majorité au pouvoir. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation, Kevin Kouté, assisté de Samuel Kachak. Mise en nom de Jean-Claude Nsiala, coordination Martin Sebou-Jangwe. Présentation Alain Hirung. À demain, même chaîne, même heure pour un nouveau numéro de Dialogue entre Congolais. Au revoir.